Tout d'abord, bon, je te vois quand même. Peux-tu te présenter, fonction et.
Donc,
et
Corinne Langlois, je suis architecte urbaniste et je suis directrice générale adjointe de l'agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine.
D'accord, donc un rôle stratégique pour observer et participer au lien entre patrimoine et projet urbain et. On va le voir après, planification urbaine. Donc, quelle est la posture de l'agence de manière générale sur ces questions de lien entre patrimoine et projet urbain?
Alors nous, on n'a pas d'intervention spécifique patrimoine. Par contre, on intègre la question patrimoniale un peu à toutes les réflexions, dans le sens où on définirait plutôt le patrimoine comme ce dont on a hérité. Donc le socle dont on a hérité, que ça soit du socle géographique, du socle des éléments de paysage, des éléments de bâti, de la trame urbaine, etc. Donc effectivement, à chaque fois qu'on travaille sur le projet à quelque échelle que ce soit, on rencontre une partie de ce socle hérité. Et la question, c'est de savoir ce qu'on en fait et comment on met ça en projet, y compris dans la planification urbaine, mais pas que dans du schéma d'aménagement, dans du plan guide. Qu'est-ce qu'on en fait? Après, on a des interventions un peu plus spécifiques en appui sur des territoires anciens, par exemple. On a travaillé sur le secteur sauvegardé, plus sur des données socio-économiques, donc toute la partie habitée, en fait, et façon dont on vit dans ces espaces-là. Qui est une autre entrée moins formelle, mais tout aussi importante, puisqu'on parle des habitants, en fait, et des usagers.
Alors, bon, donc, il y a un certain nombre d'outils qui se prêtent à faire ce lien entre projet urbain et patrimoine, mais il y a effectivement la planification urbaine. Donc, est-ce que, voilà, il y a un lien facile? Est-ce que parmi toutes les choses que la planification urbaine doit intégrer, est-ce que le patrimoine, donc, doit être intégré et jusqu'à quel niveau?
Alors, doit, après, je pense que c'est un choix. Je pense qu'en fait, les documents de planification et notamment les PLU aujourd'hui peuvent faire énormément de choses. Quand on regarde le champ sur lequel ils peuvent porter, c'est énorme. Et évidemment, la question patrimoniale, elle est posée et elle est possible à aborder dans un document de planification et notamment dans un PLU. Après, un PLU, c'est un outil de projet. Donc c'est un outil pour traduire un projet. Soit c'est un projet sur le territoire, le patrimoine et le PLU lui permet tout à fait de traduire ce projet-là. Soit c'est pas un projet et à ce moment-là, s'il est utilisé pour protéger un patrimoine sans savoir ce qu'on veut en faire, à mon avis, c'est un contresens. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le patrimoine, on est dans de la mise sous cloche éventuellement ou dans des dispositifs un peu aléatoires ou un peu, au hasard, mais pas vraiment dans la construction d'une stratégie. Alors, je pense que quand même, utiliser le PLU pour faire autre chose que de la stratégie, c'est pas forcément très bien et c'est surtout pas forcément très bien quand on commence à gérer. C'est-à-dire qu'on voit notamment un outil qui n'est pas directement un outil de patrimoine tel qu'on peut l'imaginer, qui sont les espaces boisés classés, qui sont des contraintes très fortes hein, et très pérennes. Un espace boisé classé, quand ça a un vrai sens sur un quartier, là, ça devient vraiment un outil de préservation d'un espace aménagé au profit de l'intérêt général. On voit aussi quand même un certain nombre d'espaces boisés classés qui sont plutôt utilisés parce qu'il y a des groupes de pression locaux, ça fait partie un peu de leur cadre de vie et puis on protège plus pour les habitants directement en lien avec cet espace-là que vraiment pour en faire quelque chose et ça pose généralement des problèmes après en termes de gestion. S'il n'y a pas un support en fait reconnu d'intérêt général et de projet commun partagé. Mais après, on peut faire avec un PLU, on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui. Donc, et y compris une politique patrimoniale intégrée, c'est-à-dire nature, paysage, urbanisme, architecture, mode d'occupation du sol. Enfin, il y a vraiment, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc, pour moi, c'est un outil qui permet de faire oui. Et qui est contrairement peut-être à ce qu'on entend aujourd'hui incroyablement stable notamment si on le travaille à des échelles intercommunales Parce qu'à partir du moment où, déjà pour obtenir une décision et une validation à l'échelle intercommunale, c'est pas si simple. Donc simplement ça, ça donne de la stabilité au document, parce que si on change quelque chose pour arriver à avoir l'accord de tout le monde, c'est quand même pas si évident que ça. Et puis tous les dispositifs patrimoniaux, que ça soit par le biais des espaces naturels, des espaces agricoles, des protections spécifiques prévues par le PLU pour le patrimoine urbain et architectural, pour les espaces boisés classés, quand on veut réduire en fait ces protections-là, on est sur une révision générale, ce qui veut dire quand même remettre complètement à plat un document sur l'ensemble de l'EPCI. Et ça, quand même, ça donne une certaine stabilité, parce qu'on ne fait pas ça juste parce qu'il y a un changement à un moment donné. Il faut vraiment changer le projet intégralement pour que ça puisse justifier ce type de procédure. Donc c'est quand même une certaine, pour moi c'est une stabilité réelle, quoi, qui est presque plus stable, même si la servitude est moins, n'est pas aussi importante, c'est presque plus stable qu'une AVAP ou une ZPPAUP qui finalement se contractualise entre une collectivité ou une commune et un service de l'État. Là ça va vraiment impacter sur beaucoup plus de décideurs. Donc ça donne quand même une vraie stabilité. Hein. Puis il y a des dispositifs de concertation, de participation bien plus développés qui font que, à mon sens, c'est une vraie garantie de stabilité. Alors que ça semble plus fragile.
Alors, pourtant, par exemple, si on compare ce qui pourrait être un PLU patrimonial à un outil dédié comme une AVAP, qui est aussi soumise, enfin le secteur sauvegardé c'est la même chose, soumise à une obligation de concertation, le PLU serait favoriserait justement
Le secteur sauvegardé et le PLU, c'est un peu pareil. Enfin, sauf que bon, derrière, c'est pas le même dispositif d'élaboration, pas tout à fait les mêmes contenus. Mais un secteur sauvegardé, c'est un document d'urbanisme. Et quand il y a un secteur sauvegardé, il n'y a pas de PLU. C'est une enclave. Enfin, il y a un PADD, mais c'est une enclave. Donc, il n'y a pas de différence pour moi entre un secteur sauvegardé et un PLU dans vraiment le dispositif d'élaboration et dans les thèmes traités. Par contre, une AVAP, ça traite de la forme. Et c'est vraiment une contractualisation entre une collectivité et un service de l'État. Mais ça ne traite, une AVAP, ça ne traite pas de mobilité. Une AVAP, ça ne traite pas d'habitat. Ça ne traite pas de commerce. Or, un PLU, oui. Un secteur sauvegardé, oui. Donc, c'est un document beaucoup plus riche, à mon avis, et qui pose bien mieux la question de la transmission patrimoniale et de quel cadre urbain ou quel cadre paysager dans des secteurs moins urbains on préserve pour le transmettre, pourquoi faire, comment on va vivre là-dedans, est-ce qu'on va réussir à respecter, enfin, à équilibrer les fonctions urbaines, etc. Et on a vraiment ces réflexions-là dans un cadre de PLU comme dans un cadre de PSMV. On ne l'a pas dans le cadre d'une AVAP. On est vraiment sur de la forme, quoi. Donc, je pense que la question du patrimoine territorial est mieux prise en compte dans le cadre d'un PLU, finalement, si on joue le jeu jusqu'au bout et si on a un vrai projet, que dans le cadre simplement d'une ZPPAUP. Ça ne fait pas plaisir aux détenteurs de la parole patrimoniale officielle, mais je pense que c'est vrai.
Et alors, si on peut comparer, effectivement, comme ce sont dans les deux cas des documents d'urbanisme, un plan de sauvegarde et de mise en valeur en secteur sauvegardé et un PLU à visée patrimoniale, effectivement, ce sont bien des documents d'urbanisme. Par contre, on dit souvent que l'appareillage juridique derrière n'est quand même pas tout à fait le même, que du coup, le secteur sauvegardé peut aller beaucoup plus loin dans la réglementation et que très vite, le PLU se heurte à des limites imposées par le code de l'urbanisme.
Alors, à mon avis, il y a deux choses. La force du secteur sauvegardé, la vraie force, c'est de pouvoir travailler sur les intérieurs et sur la transformation ou la préservation, mais les deux peuvent aller en même temps, de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, quoi. Et notamment de travailler sur les remises en état d'habitabilité, qui était quand même la vocation initiale des secteurs sauvegardés. Ce que ne peut pas faire le PLU tout seul, même si aujourd'hui quand même, le PLU peut dans certains secteurs avec des orientations d'aménagement et de programmation, avoir des vraies intentions programmatiques et des vraies intentions d'aménagement sur des tissus déjà habités pour les remettre en état de fonctionnement dans un ensemble urbain. Mais le PLU tout seul va être obligé de s'adosser à d'autres outils, notamment de tout ce qui est opération de restauration immobilière, par exemple, pour pouvoir, et déclaration d'utilité publique, pour pouvoir avoir un peu la même force que le secteur sauvegardé. Le secteur sauvegardé, c'est vraiment l'intérieur qui est intéressant. La prescription de démolir, si maintenant, en fait, on est plus sur de la prescription de démolition brute, mais de dire que certaines choses peuvent être démolies, c'est sûr que là, le secteur sauvegardé, c'est un outil qui n'a pas son équivalent dans le PLU, sauf à faire jouer des choses plus lourdes à côté. Donc ça, pour moi, c'est un avantage incontestable. Après, il y a toute la question des matériaux. Le PLU ne peut pas prescrire d'obligation de matériaux. Ça, je pense que ça serait bien de le rappeler, de le re-rappeler, parce que ça n'est pas possible. Et je ne suis pas sûre du tout que l'enjeu soit forcément dans le matériau à l'échelle urbaine. Je pense qu'on est beaucoup plus quelquefois sur des questions de teinte, de brillance, de capacité à bien vieillir et pas à s'abîmer, plutôt qu'à vraiment des questions de matériaux. Si on est, ça, le secteur sauvegardé peut prescrire du matériau. Pour moi, si on a vraiment des enjeux sur les matériaux, on est plutôt sur des questions de transmission de savoir-faire. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire une menuiserie isophonique, isothermique avec un coût normal pour pouvoir adapter du logement à un confort énergétique qui est un peu une exigence sociale et normative? Soit on le fait dans un cadre d'exception et à ce moment-là on monumentalise et on trie automatiquement socialement, soit on est capable de le faire, mais à ce moment-là, c'est vraiment que ça a été considéré comme étant aussi un élément patrimonial de savoir reproduire. Et à mon sens, on passe plutôt du côté du patrimoine immatériel, c'est-à-dire de la transmission des savoir-faire et de la capacité à transmettre en fait des gestes, des profils, et aussi à créer, puisque une des dimensions quand même fortes du patrimoine immatériel, c'est de se baser sur des savoir-faire ancestrales pour pouvoir les transformer et les réutiliser dans la société contemporaine. Donc pour moi, la question du matériau, elle est plus liée au patrimoine immatériel et à l'inventivité, la créativité à partir de savoir-faire ancestraux que vraiment à une préservation de forme. Surtout qu'en général, la préservation de forme, on ne l'a pas. Parce que quand on fait de la menuiserie industrielle, bah, quoi qu'on fasse, ce n'est pas une question de matériaux, c'est une question de main ou machine. Quoi, hein. Donc on se trompe un peu de sujet. C'est un peu iconoclaste. Quoi. Mais je pense qu'on se trompe un peu de sujet.
Donc il n'y a pas un enjeu réglementaire dans cette différence finalement entre le règlement d'un secteur sauvegardé et le règlement d'un PLU sur cette question de l'imposition des matériaux.
Le PLU ne peut pas le faire. Voilà. Mais si le PLU a besoin de le faire, je pense que les cas où il a besoin de le faire sont rares et qu'à ce moment-là, on parle d'autre chose. C'est-à-dire on parle d'un niveau de détail, on parle de jeu d'ombre, on parle de choses beaucoup plus subtiles en fait que simplement l'usage d'un matériau. Et que si on a vraiment des enjeux sur les questions de matériaux, on est quelquefois aussi beaucoup plus sur de la préservation de la valeur archéologique d'un immeuble, auquel cas c'est pas forcément le remplacement à matériaux identiques qui est intéressant, mais c'est plutôt la préservation de l'élément ancien en place et avec tous les dispositifs de restauration, de consolidation pure, quelquefois de protection, avec un dispositif contemporain. Quand on restaure des vitraux dans une église, on peut tout à fait, si c'est l'ancienneté de la verrière qui est intéressante, on la remet en état et on la protège à l'extérieur avec une vitre transparente. Enfin, on est beaucoup plus souple dans les monuments historiques, beaucoup plus inventif que finalement quand il s'agit de patrimoine urbain, ce qui est un peu curieux, mais c'est quand même la réalité. Quand on a restauré les verrières du Grand Palais, on n'a pas été à l'identique, hein. On les a fait changer pour pouvoir réutiliser. Et quand même, ça a une sacrée allure. Donc, on est plus inventif.
Alors, justement, dans cette logique à la fois de protection, mais aussi de valorisation et parfois de réhabilitation de bâtiments, est-ce que là aussi le document le PLU est capable d'arriver à un point d'équilibre ou est-ce qu'il est obligé de se cantonner à un rôle de mise sous cloche, voilà. Est-ce qu'il y a un risque que le document d'urbanisme fige par l'aspect réglementaire, voilà.
On peut toujours. C'est là où je pense qu'il s'agit de projet. Enfin, ce qui est très difficile, je pense, dans la question du patrimoine urbain, c'est que c'est beaucoup plus facile de figer. Parce que ce qu'on a sous les yeux, ben, on le connaît. Donc le préserver en l'état sans le faire évoluer, c'est assez facile. Que d'imaginer la manière dont il peut évoluer. Et d'imaginer la manière dont il peut évoluer à l'échelle d'un îlot, d'un quartier. C'est quand même beaucoup plus compliqué. À l'immeuble, à la limite, on s'en fiche un peu. On travaille au moment du projet. On a l'immeuble, on a son architecture, on connaît bien l'immeuble, on va faire des investigations complémentaires. On a un usage, un programme et on va faire le projet pour arriver à concilier le programme avec ce qui est là. Quand on travaille à l'échelle urbaine, on a beaucoup plus d'usagers, on peut avoir des mutations d'usagers, on n'a pas forcément de programme initialement et donc on doit finalement se projeter sur la manière dont tout ça peut évoluer pour pouvoir accueillir soit les mêmes usages, soit d'autres usages, mais en ayant le bon niveau de prescription pour répondre à la question du patrimoine urbain et pas du patrimoine architectural. Et on a beaucoup de mal, je trouve, à passer de la culture de l'objet architectural à la culture de l'objet urbain patrimonial. Alors, notamment, je pense, parce que nos documents d'urbanisme ne traitent pas de l'espace public, par exemple. Or, à un moment donné, dans un espace patrimonial, l'espace public est complètement structurant dans son rapport entre ce qu'il y a autour, la manière dont on traite les seuils, etc. Eh bien, le document d'urbanisme ne traite pas en tant que tel de l'espace public. Il ne traite pas de questions d'ensoleillement. En France, il y a des législations européennes où on peut traiter de questions d'ensoleillement vraiment dans le cadre d'un document d'urbanisme. Donc, je pense que c'est un peu ce qui rend la prise en compte du patrimoine à l'échelle urbaine un peu compliquée chez nous. On est vraiment sur l'unité foncière, donc sur l'objet.
Justement, dans l'environnement là, dans lequel nous sommes, il y a eu un certain nombre d'objets qui ont été identifiés et qui sont censés être protégés. Comment ça se passe? Est-ce que c'est respecté?
Ah oui, c'est respecté. Voilà,
une fois que le projet est en marche, comme c'est le cas sur ce quartier des bassins à flots.
Oui, là, c'est des protections par le biais du PLU, pour la plupart. Qui sont beaucoup autour du patrimoine portuaire, donc que ça soit autant les infrastructures portuaires avec les sols, avec les quais, etc., ou que ça soit des objets en fait portuaires comme les grues qui sont derrière nous, qui sont aussi protégés au titre du PLU. Et après, les maîtres d'ouvrage font avec. À partir du moment où on a bien un objet identifié avec les prescriptions qui vont avec, puisque ça a été pensé dans le cadre de la patrimonialisation sur ce secteur-là, ça a été pensé dans une optique d'intégration dans un projet, donc il y a un certain nombre de prescriptions. Ben après, c'est un élément de programme comme un autre. Hein. Un opérateur, il est capable de, si on lui demande de faire 100 logements, il va en faire 100. Et on lui dit de garder tel élément en lui donnant tel ou tel sens, il va faire avec, c'est un élément de programme. C'est jamais une contrainte, un projet. Enfin, le patrimoine pour moi, ce n'est pas une contrainte. C'est un élément de programmation. Ce qui est toujours compliqué, c'est quand la contrainte fige alors qu'on n'a pas de raison de figer. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément de réflexion sur la pérennité de l'usage et donc, et ni sur l'état d'ailleurs, hein, l'état sanitaire. Et donc à ce moment-là, bah, on va figer un truc, puis quand on va se retrouver avec le projet, évidemment, ça sera pas compatible. Mais autrement, c'est un élément qui fait partie d'une composante de projet. Et les meilleurs projets sont toujours les projets sur lesquels il y a peut-être pas trop de contraintes, mais un certain nombre de contraintes.
Les acteurs privés, entre autres, de l'aménagement et de l'urbanisme respectent cet enjeu, pour ne pas parler de contraintes. La collectivité elle-même respecte les enjeux qu'elle identifie.
Ici, oui. Après, je pense qu'on est beaucoup sur des questions de, comment dire, de lecture et d'évaluation. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, alors notamment si on se place dans la perspective de la réforme, du décret qui vient de sortir là sur le règlement du PLU, ou en acte spécifiquement qu'on peut faire du projet avec de l'orientation d'aménagement sans règlement. Donc, principe de compatibilité, on est quand même à un moment donné obligé de se donner des éléments d'évaluation. Qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est plus compliqué qu'avec de la norme explicite. Hein. Et puis, où on dit aussi que le projet, que la règle peut être une règle d'objectif à atteindre. Ben là aussi, il faut se donner des éléments d'évaluation. Et comment on évalue l'intégration d'un projet dans un site? Soit on a on est très clair sur ces critères et ça oblige à se mouiller un peu. Soit on n'est pas très clair et à ce moment-là, on peut avoir quand même, à mon avis, un peu des problèmes d'équité dans l'évaluation. Et qu'est-ce que c'est qu'un gabarit sans rapport avec son environnement? Et ben, soit c'est un critère explicite et tout le monde s'y plie. Soit ce n'est pas un critère explicite et là on peut avoir le projet où il y a d'autres enjeux qui font qu'on est un peu plus souple sur l'appréciation, ou alors il n'y a pas d'enjeu majeur, ou alors le maître d'ouvrage n'est pas à part un entregent terrible et on est beaucoup moins souple sur l'appréciation. Mais c'est un peu comme l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Hein. Il n'y a rien de plus difficile que de motiver un avis d'architecte des bâtiments de France. Enfin, je sais de quoi je parle, parce que j'ai quand même fait ça quelques années. C'est plus facile d'avoir un peu de la prescription type sans se poser de questions. Mais à un moment donné, si on se dit à cet endroit-là, vraiment, qu'est-ce qui est fondamental, comment je l'explique, comment je le motive, il y a une certaine prise de risque et en même temps, c'est là aussi qu'on va avoir toutes les marges de négociation qui vont apparaître. C'est si on sait expliciter son évaluation, ses critères d'évaluation, on va vraiment avoir le dur et puis ce qui serait pas mal, mais où on peut quand même arriver à trouver des motus vivendi avec l'aménageur. Et ça, je pense que dans la réforme là, qui vient d'être actée, ça va être un vrai changement parce que ça va obliger à expliciter les critères d'évaluation, les critères d'appréciation. Puisque la loi dit bien qu'on peut avoir des objectifs, mais qu'il faut que ça soit d'abord équitable et puis aussi clairement vérifiable. Donc pour que ça soit vérifiable, il faut qu'il y ait des critères et des critères explicites. Et là, je pense qu'on va s'amuser un peu, quoi.
Une autre question, puis après, peut-être Mathieu aussi, une question, je le sens, sur peut-être la capacité du PLU, ou pas, hein, bien sûr, à chaque fois la réponse n'est pas dans la question, à être ouvert à davantage de types de patrimoine que les outils dédiés, classiquement, donc secteur sauvegardé et AVAP. Est-ce que le PLU finalement est au même niveau que les... Alors peut-être pas que le secteur sauvegardé, mais
ben, ça dépend.
Sur les types de patrimoine et
ça dépend parce que le PLU, il est beaucoup... Alors, ben, justement, je pense que justement, il est plus intégrateur. parce qu'il ne trie pas à la base. Il permet de traiter il permet clairement de patrimonialiser du tracé urbain, par exemple. Il permet de patrimonialiser des éléments de nature, que ça soit pour des vocations plutôt vraiment de milieu naturel, mais il y a des endroits où c'est ça qui est patrimonial. Un champ d'expansion des crues avec les rythmes, par exemple, de l'eau. Enfin, je pense qu'au bord de la Loire, on voit à peu près ce que ça veut dire. Ici aussi, d'une certaine manière, c'est très patrimonial. Et ben, ça permet de prendre en compte ça. Ça permet de prendre en compte du bâtiment de manière beaucoup plus classique. Ça permet, d'une certaine manière, de prendre en compte des modes d'habiter. Parce qu'on peut intervenir un peu sur la composition socio-économique des quartiers, ben, ça permet d'intégrer beaucoup plus de choses. Donc, moi, je trouve que c'est un outil très, très adapté. Après, ce que ça ne permet pas d'intégrer, c'est une partie du patrimoine immatériel. Mais ça, c'est difficile de mettre ça dans un document d'urbanisme. Encore que si une place de marché est particulièrement pratiquée, on peut quand même intervenir sur la préservation de cet espace-là, sur l'amélioration de son confort avec un PLU, y compris par le biais d'une OAP, par exemple. Donc, moi, je trouve que c'est un outil très adapté au territoire. C'est fait pour, d'ailleurs, hein, mais c'est un outil très adapté au territoire. Un secteur sauvegardé sur une échelle de ville, c'est impossible. Enfin, de vraies grandes villes, quoi. Ça coûterait une fortune, puis ça serait un peu un non-sens. Même une AVAP sur des très très grands territoires, c'est très compliqué à faire, quoi. Sauf à les penser en dynamique.
Ça... Si tu veux poser une question, il faut que tu viennes de ce côté-là. Non, bah, passe par-dessus le fil. Sinon, Corinne, ça va faire un champ contre champ. Tiens, t'as besoin.
Comme on parlait de financement, notamment à l'instant, quand on, je sais pas s'il n'y a pas trop de vent, non ? C'est bon ?
C'est bon, ça va.
Quand on parlait, ça coûte trop cher un secteur sauvegardé sur une ville. Dans le cadre d'un PLU, alors sur Bordeaux, il y a des services dédiés qui vont faire le travail d'inventaire. Sinon, jusqu'où on doit aller dans l'inventaire d'un PLU ? Comment ça se passe dans le cas où on n'a pas d'ingénierie ou pas de financement ?
Ah ben, à mon avis, la question de l'inventaire, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, à quoi ça sert de connaître ? Ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la connaissance. Il y a la logique inventaire des richesses de la France où finalement on est très exhaustif sur un peu tout et on récupère des éléments d'information, mais à la limite c'est un peu à plat. Alors l'inventaire problématise un peu parce qu'autrement ils s'en sortent pas, mais on regarde sur certains cantons par exemple. Tout inventorié de la petite cuillère à la cathédrale, oui, ça existe, ça se fait. Après, à quoi ça sert ? Donc, je pense que là où il y a un peu une dérive aussi, peut-être dans l'idée de mettre des inventaires patrimoniaux dans le PLU, mais que c'est la même chose sur l'inventaire de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est le bon inventaire en fonction du projet, quoi ? Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est le projet de la collectivité qui va orienter la connaissance nécessaire, donc l'inventaire nécessaire. Et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est qu'elle intervienne en deux temps, c'est-à-dire un premier temps, mais qui est une phase presque préalable, qui est de réfléchir à qu'est-ce qui fait patrimoine sur notre territoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un peu constitutif de ce territoire-là, et qu'est-ce qui mérite finalement d'être préservé, d'être transmis, parce que ça va s'intégrer dans la vie de demain. Ça, c'est un premier temps et on a besoin un peu d'indicateurs tous azimuts, mais pas exhaustifs. Et puis après, effectivement, quand on passe au projet, en fonction du projet, on va avoir besoin d'éléments beaucoup plus précis de connaissances, notamment parce que si on émet de la contrainte dessus, il faut savoir sur quoi on la fonde. Et ça, là, il y a un vrai sujet. Et effectivement, en termes de coûts, on peut avoir des coûts relativement monstrueux si on confie tout ça à des bureaux d'études très spécialisés. Après, il y a certains patrimoines où la mémoire habitante marche très bien, où il peut y avoir des mobilisations de un peu citoyenne, parce que si le patrimoine territorial, ça renvoie aux questions de citoyenneté et que ça n'appartient pas qu'à des spécialistes. Donc, c'est pas inintéressant aussi de mobiliser les compétences qui peuvent exister au sein de la société civile, quoi. Mais c'est une vraie animation pour le coup. Et il faut que ça soit sous-tendu par un projet. Autrement, on ne sait pas où on va, quoi. Hein. Enfin, la biodiversité, ça peut être assez sympa aussi, hein, comme champ de. Qu'est-ce que c'est que l'inventaire de la biodiversité ? Même il y a simplement une question d'échelle. Enfin, sur un EPCI, c'est quoi la biodiversité ? Sur l'unité foncière, c'est quoi la biodiversité ? On imagine bien qu'on ne va pas regarder les mêmes choses. S'il faut avoir le niveau de précision à l'unité foncière, avoir le même niveau de précision à l'échelle de l'EPCI, c'est délirant. Puis ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est là où c'est... Je pense que pour moi, la connaissance, c'est utile pour un projet.
Et alors, c'est quoi la bonne échelle du projet ? Parce que si on... Enfin, ça dépend du projet, évidemment, mais... si on parle d'inventaire, justement, de coûts à supporter, où une petite commune n'aura pas forcément les moyens de ses projets, donc on est beaucoup aussi dans les PLU intercommunaux, est-ce que la bonne échelle d'un PLU patrimonial, c'est l'intercommunalité ou est-ce que c'est la commune ?
Ben, ça va. Enfin, d'abord, à la commune, c'est rare, je pense, finalement. Il y a une vraie échelle à l'échelle territoriale, donc plutôt intercommunalité, voir que ça déborde un peu, voir que ça couvre des territoires à l'intérieur de l'intercommunalité, mais qui ne sont pas forcément des territoires communaux, mais des infra-territoires à l'intérieur de l'intercommunalité. Où là, on va avoir vraiment des choses qui vont être les grandes structures, les grandes évidences. Et puis après, finalement, est-ce que ça a un intérêt à la commune ou pas ? À l'intérieur de ces grandes structures, on va avoir des sous-typologies. On va peut-être avoir quelques villages, quelques hameaux, des quartiers. Enfin, on va avoir des sous-typologies. Du coup, le travail il peut se faire sur les sous-typologies, mais du coup, pas forcément à la commune. Et après, il y a la question de la connaissance à l'unité foncière, mais la connaissance à l'unité foncière, finalement, elle va être intéressante quand on va passer au projet, vraiment. Aller mobiliser l'intégralité de la connaissance à l'unité foncière, ça se fait dans le cadre d'un secteur sauvegardé, mais dès qu'on va toucher des échelles beaucoup plus vastes, ça devient très vite monstrueux, puis pas forcément utile. Même dans un secteur sauvegardé, on ne visite plus tous les immeubles. Hein. On en visite une partie, mais on ne les visite pas tous, parce que c'est beaucoup trop à la fois cher, puis ça n'a pas forcément de sens. Donc, moi, je pense que la grande caractérisation patrimoniale, elle peut se faire à l'échelle de l'EPCI. Ensuite, travailler plus sur des typologies ou des sous-espaces, mais beaucoup plus restreints. Et après, à l'unité foncière, s'il y a des choses évidentes qui rentrent dans le cadre d'une protection d'objets, à ce moment-là, on alimente l'objet en lui-même. Puis autrement, c'est dans le cadre du projet que ça va se faire.
On y a déjà un peu répondu tout à l'heure, mais c'est pour revenir sur cette question de la complémentarité entre les outils. Est-ce que le PLU est un outil qui peut venir en complémentarité d'un secteur sauvegardé ou d'une AVAP ? Et le cas échéant, comment est-ce qu'on va gérer les cohérences, la mise en cohérence ?
Dans le secteur sauvegardé, il ne peut pas se doublonner puisqu'il y a un trou. Hein. Ce qui est important, je pense, est peut-être un peu à la fois nouveau et intéressant. C'est que maintenant, dans un secteur sauvegardé, le PADD de la collectivité s'applique au secteur sauvegardé. Et donc, on arrête de faire de l'urbanisme GOMEP, là, avec le truc qui est un périmètre artificiel et qui s'arrête à un endroit, puis de l'autre côté de la rue, t'es pas dedans, t'as un autre régime. Alors, l'habitant, lui, passe d'un côté du trottoir à l'autre. C'est sa vie de tous les jours. Non, en fait, c'est pas géré pareil. Donc ça, c'est complètement stupide. Donc je pense qu'effectivement, le fait d'avoir un document de cadrage général, d'orientation générale, qui s'applique quel que soit l'outil, ça, je trouve que c'est quand même du... enfin du bon sens de base. Après la vape, elle est vraiment faite, enfin au départ, hein, c'était quand même une contractualisation entre pour savoir comment on appliquait finalement la vie conforme de l'ABF sur un secteur donné. Qu'est-ce qui était prioritaire, comment finalement, quelle était la prescription émise en fonction d'un projet de préservation patrimoniale sur un secteur. Moi, je pense que sur certains points, ça fera doublon avec un règlement de PLU un peu costaud. Est-ce que ça vaut le coup de préserver ou pas, juste pour avoir une servitude ? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas que ça fasse doublon, parce que autrement, pour les gens, c'est illisible et c'est complètement, c'est aberrant. Donc effectivement, si les ABF sont mieux associés à la construction des PLU et notamment de ces secteurs-là, peut-être que le règlement de ZPPAUP ou AVAP ne se justifie plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant dans les AVAP, il y a une dimension écologique, enfin paysage écologie, et que c'est vraiment intéressant. Et en même temps, c'est une compétence quand même un peu spécifique. Un fonctionnement de trame verte, ça se regarde pas à l'échelle d'un territoire de ZPPAUP, ça se regarde à vraiment de bien plus grandes échelles. Donc il y a même des choses un peu difficiles dans la cohérence interne des documents, je trouve. Donc pour moi, c'est peut-être sur la ZPPAUP qu'il y a le plus d'interrogations à terme. En tout cas, faut pas que ça se marche sur les pieds, ça c'est sûr.
Une toute petite dernière.
Oui, une toute petite, parce que je crois que Corinne.
Non, juste quand vous disiez que c'était intéressant d'avoir un seul document qui gère un peu tout, quand la loi CAP a voulu faire du PLU le principal outil de gestion du patrimoine avec le PSMV, mais le PLU prenait une grosse place, est-ce que du coup c'était une bonne idée ? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose ? Ou au contraire, c'était pas une bonne idée ?
Pour moi, c'était une excellente idée. Ça, c'est sûr. Ce qui était quand même écrit dedans dans les rapports de pouvoir État-collectivité était peut-être un petit peu plus compliqué à faire avaler. Et notamment, derrière, se posait la question des coûts et de l'évaluation des coûts d'études, notamment quand il n'y avait pas forcément vraiment de projet patrimonial sur la collectivité, dans la collectivité. Après, ça, je trouve que ça pose de manière plus générale la question du PLU intégrateur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à force de vouloir intégrer, on a un peu tendance à noyer le projet de la collectivité, puis on se retrouve avec des rapports de présentation qui sont des monstres et dont on ne sait pas quoi faire, quoi, parce que là, la question de l'inventaire patrimonial, le diagnostic du stationnement, enfin, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, qui ont du sens sur certains territoires, mais pas sur tous. Et comme il n'y a pas de possibilité finalement de trier, au regard à la limite d'un porté à connaissance de l'État, de trier dans ce qu'on traite explicitement ou dans ce qu'on ne traite pas, eh ben, on traite de tout, puis du coup, on a un projet qui est illisible. Mais je trouve que c'est dommage, oui. C'est dommage parce que c'était un moyen de traiter la question patrimoniale dans plein de situations territoriales différentes, et aussi de reconnaître le caractère patrimonial de certains territoires en frange urbaine qui ont des vraies qualités, qui ont été un peu, à mon avis, trop vite identifiés de France moche, là, tous les secteurs de périurbanisation. Mais en même temps, dans ces secteurs-là, c'est là où on a les anciens villages qui ont été absorbés par la ville et qui sont encore présents. Et du coup, ça, c'est aussi du patrimoine. Et le PLU permet de travailler là-dessus. Alors qu'un dispositif type AVAP, il ne va pas aller travailler sur ces secteurs-là. Donc je trouve que c'est quand même très dommage, quoi. C'était plus s'adapter aux concepts patrimoniaux tels qu'on les pense, je pense, aujourd'hui, socialement.
Merci.
C'est bon. Bah, mais oui, non, mais merci, Corinne, c'est très bien. Merci beaucoup.